Amis de la poésie et de Radio Occitanie, bonjour, les poètes, une émission de Christian Saint-Paul et Claude Bretin. Le vieillard qui regarde derrière lui n'aperçoit plus qu'un grand cimetière semé des épaves de ses rêves, de désespoir, de ce qu'il aurait pu ou voulu être, et à quoi, sans savoir pourquoi, il a renoncé. Elle est cette sentence qui dit que l'homme choisit sa route. Il en choisit des centaines qui toutes ne sont que des impasses. Voilà ce que disait Michel Del Castillo. Alors, ces impasses, eh bien, souvent, elles se traduisent par la voie poétique, c'est-à-dire par des œuvres poétiques. Et aujourd'hui, je voudrais vous lire une œuvre importante d'un jeune poète qui est franco-chilien, Carl Diaz, et qui vient de publier Polyphonie landaise, précédée de Parage, de poèmes, qui est publié chez Gallimard. Il s'agit là donc de livres qui ne peut que interpeller les habitants de notre pays, qui est l'Occitanie, puisque Carl Diaz, qui est né au Chili, à Providencia, au Chili, il a pris pour titre de ce recueil le mot de parage. Or, parage, c'est un mot qui est un mot culte dans la culture occitane. Alors voici déjà ce qu'il dit, Carlos Diaz, sur ce livre, Parage et Polyphonie landaise, ont été pensés comme un diptyque, ou tout du moins comme deux œuvres complémentaires. Ces deux textes aspirent à contenir l'existence d'un lieu dans un livre, à participer à la perpétuelle métamorphose du processus de dissolution et de recomposition des signes présents dans l'espace. Dans un seul élan, cette polyphonie révèle de grandes marges de silence et une superposition d'impressions multiples ayant un rapport avec la Terre en tant que réservoir dynamique d'une mémoire. Symboles et valeurs humaines se transformant en épreuves, puis en territoire, et le territoire en cosmogonie. À rebours de l'évidence, de la nostalgie ou encore de l'idéalisation, ce texte s'enracine dans les Landes de Gascogne pour exalter l'âme de la géographie vécue tout autant que l'esprit de la géographie imaginaire. Dans son prolongement, Parage trouve une expression dont les fondements et l'horizon reste la question subtile de l'être au monde. L'être au monde. Parage est un vocable de l'ancien occitan, assez fréquent dans la poésie des troubadours, réputé intraduisible et sans égal dans d'autres langues. Il désignait à la fois une vertu morale et plusieurs qualités, l'honneur, la droiture, l'amour, le respect de soi et des autres dans tous les domaines, constituant ainsi l'un des fondements de la culture occitane. Voilà, et c'est merveilleux que ce soit un jeune franco-chilien qui nous rappelle que nous, ici, en Occitanie, nous avons créé, avec les troubadours, la civilisation humaniste contemporaine, puisque dès le XIIe siècle, les troubadours ont inventé l'amour courtois, c'est-à-dire un rapport très différent de l'homme à la femme, l'homme qui n'était plus vu sur son angle glorieux guerrier, mais au contraire, sous l'angle du langage, de l'émotion, de toute la subtilité humaine, de ce partage de sentiments entre l'homme et la femme. L'amour courtois est né ici, dans notre terre occitane, avec les troubadours autour du XIe siècle. Et c'est bien que l'on nous rappelle que ça a marqué quand même toute la civilisation de l'Europe, et toute l'Europe s'est mise petit à petit à cette civilisation qui a été une véritable révolution des mentalités, l'amour courtois des troubadours. Et Parage, cette vertu occitane qui n'a donc d'égal dans aucune autre langue, nous avons inventé ici en Occitanie, et en particulier d'ailleurs à Toulouse, avec la constitution particulière de Toulouse, nous avons inventé cette réciprocité d'humanité entre tous les êtres vivants. Quand un étranger franchissait la muraille et qui est rentré dans la ville de Toulouse par une des portes de la ville, eh bien, il avait autant de droits que tous les citoyens déjà de cette ville, que tous les autres habitants de cette ville. Et il était considéré comme un égal, avec cette notion extraordinaire, hein, cette notion d'abord de la convivencia, que l'on peut traduire effectivement par la convivialité, bon. Mais également cette notion du parage. Parage, donc, qui veut dire que, eh bien, étant dans cette cité toulousaine, qu'on appelait la cité mondine, eh bien, vous aviez l'obligation de vous comporter avec honneur, droiture, amour, respect de soi et des autres, donc dans tous les domaines, puisque c'était la nécessité absolue du respect du parage, moyennant quoi vous étiez l'égal de tous les autres. Voilà. Et c'est bien que ce jeune franco-chilien vienne nous rappeler cette notion qui est une notion de civilisation et qu'il faudrait malheureusement retrouver. Nous allons donc lire Parage. Parage de Carles Dias, extrait du livre Polyphonie landaise précédé de Parage, poème aux éditions Gallimard. 1. De nuit, un cri traverse les murs. Un cri qu'il faudra laisser filer, enfler, couvrir toute la ville. Un écho de longue histoire, répondant à ses noms, à ses âges. Une lame à la poursuite des fileuses courbées par la résignation, des fantômes nichés sous l'oreiller, un fracas de races rudes qui creusent dans le noir pour en extraire une lumière. 2. Le besoin de hurler comme on pleure, que l'oiseau s'envole comme s'envole l'ombre perdue du mirage sur la trace rompue, que le parfum qui se noie dans ta mémoire emplisse à nouveau la chambre en secouant les pleurs de l'hiver hors de ton linge épais. 3. J'adresse ma prière au vent, ma main sur sa peau. Il tourne autour de moi, en chantant inlassablement le nom de l'absent, comme la cascade appelle l'abîme. 4. Nous enterrons la chair sans la venger ni la connaître. Dans les cendres du soir, nous battons des paupières sans comprendre. Est-ce des pas qui s'éloignent ou des désirs qui adviennent? C'est ma propre langue que j'entends alentour, comme pour ceux-là qui reviennent de la guerre. 5. Ces mains qui, d'elles-mêmes, ne peuvent se déplier, ni se fermer en un point. Cette peau qui, exposée aux flammes du solstice, appelle à détourner les yeux. Il me semble, hanté par les revers monotones des doutes et des contraintes, qu'un cercueil est cloué quelque part. 6. Quand je crains de cesser d'être, que je ne peux tenir loin de moi la chute muette des chemins et des villages, mon regard court au-devant comme un chien et se poste en attente dans le soir tremblant. Aucun oiseau n'y chante. 7. Hors de la source où le temps nous entraîne, les cheveux sur les yeux et le cœur au vent, je crois retrouver ta présence, un peu et partout, comme un feu que nulle main n'a allumé, comme la voix qui sort de la pierre et résonne au seuil du grand pays, au-devant des hautes falaises qui rayent le cri des mouettes. 8. Le ciel est après toi, derrière l'horloge qui ne sonne plus. Je regarde se dérouler l'aube comme regardent les pierres qui tremblent dans l'attente. Et en dessous, la terre prodigue brûle ses chiffons de mémoire. La patine du temps se confond en un cortège de songes. 9. La couleur des pins et des châtaigniers, je ne m'en souviens guère. Il y a dans les arbres, selon les caprices de l'heure, une gloire subtile. Nous admirons l'idée que l'on se fait des choses, de la cicatrice du dedans vers le dehors, sans même savoir si, de l'autre côté, échoué sur le rivage, un message espère. 10. Pourquoi choisir ce moment précis, au-devant de notre destin, pour se redresser et se découvrir le visage? Nous sommes les seigneurs de l'instant. Le jour se dénude sous la forêt, courtise les fougères, et attire dans son voile blanc ce que le sable nomme et disperse, la présence fragile de ce qui existe, les variations de la rouille, de la flamme attisée, le murmure de l'invisible et de tout ce qui demeure. 11. Un retable d'autel majeur me tient comme la vérité. J'y vois l'immobile effigie d'une parfaite diversité. La ressemblance entre ce défunt oublié, mon allure d'homme, et celle d'une mort vécue 100 fois. Celle de la pierre, matrice des légendes, dans la main du temps, sur laquelle la pluie se déguise en mémoire sur ce bout de papier serré dans ma poche. Douze. Je parle à la main pliée, noircie, posée en fidélité sur le marbre. Un jour, le geste prendra la parole. La main n'aura plus peur de la camarde, ni du spectre aux ailes brisées. Le sang se réveillera parmi les fleurs sauvages pour recueillir la lumière qu'abandonne la nuit. Voilà. Je rappelle que la camarde, c'est Brassens d'ailleurs qui utilise dans Requête pour être enterré sur une plage de Sète, ce mot, la camarde, c'est la mort. 13. Ils sont perdus dans le sommeil des cavernes. Je ne me souviens plus combien de fois j'ai vu, en défilé, les ombres chinoises et les funambules que nous avions cru étouffés par le tonnerre jadis. Ils accrochent à la douleur suprême leur trésor de larmes et la mort déjà présente au fond de leurs yeux d'argile. Voilà, je vais arrêter là donc ces extraits de Parage, peut-être sur un dernier. C'est le 29. Que vaut une prière du bout des lèvres? Le brouillard se déplace minutieusement, il gratte le bas des pins. Tantôt se verra un cairn scintillant au centre des fougères. Une oraison, le sermon du vent, fleuve, chair, pollen, se dresse vivement contre le miroir fêlé, suspendu dans la brume. Je ramasse mon murmure et l'offre à l'ardente clarté du matin qui règne sans partage. Voilà. Carlos Diaz, donc, c'était des extraits de Parage. Donc, vous voyez, c'est un jeune poète, il est né en 1978, au Chili. Il vit actuellement en France. Et je vais passer maintenant à la deuxième partie, la polyphonie landaise. Donc, son poète des lieux. Bon, vous avez vu que dans les lieux, bien sûr, c'est pas, comment dirais-je, il n'y a pas là un langage touristique ou de guide touristique, loin de là. C'est toujours des lieux qui sont les lieux du poème. Hein. Bien sûr, ils sont ancrés à une histoire et à une géographie. Là, la géographie du Parage, c'est-à-dire à une histoire morale, l'histoire morale de notre Occitanie, que j'espère nous ne perdrons pas et que nous sommes en train de retrouver, puisque actuellement, avec les efforts de Alem sur Garcia, qui a publié ce très beau livre sur la convivienza, cette convivience que l'on veut de nouveau instaurer comme une espèce de règle non écrite de rapport humain privilégié donc dans notre Occitanie, et qui est repris d'ailleurs par les élus de la ville de Toulouse, hein, qui imposent ça, cette obligation de convivienza dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine des relations des employés municipaux entre eux, mais également, bien entendu, des habitants entre eux, des associations, etc. Il y a cet effort que fait la ville de Toulouse pour retrouver cette convivienza propre à l'Occitanie, et puis, au-delà, donc, ce Parage, ce sentiment d'honneur et d'égalité que doivent avoir les citoyens entre eux, et que nous rappelle cet ami donc franco-chilien Carlos Diaz. Et voici maintenant que nous allons aller dans les Landes, avec cette polyphonie landaise, les Landes où se déploie la langue occitane. Ici dans les Landes, C'est une langue extrêmement précieuse, difficile. C'est le gascon. Et il y a un très grand poète qui est publié chez Gallimard, qui est mort il y a quelques années, qui s'appelle Bernard Manciette. Bernard Manciette, qui a rendu à cette langue gasconne, heureusement, bien entendu, pour le bien de tout le monde, il a été traduit en français et ensuite dans toutes les langues du monde entier, parce que c'est une œuvre universelle, celle de Bernard Manciette. Et là, c'est très curieux que ce soit un Chilien, Carlos Diaz, qui perpétue ce génie de la langue gasconne et surtout de la pensée gasconne, de ces landes qui vont inspirer donc cette polyphonie landaise. 1. J'entends des voix qui portent leur propre écho et me passent à travers le corps. Il y a ici, en ce chapelet de terres abruptes, autant de ciel que de Dieu. Par un orage, la vie est rendue au silence. Parée d'une étoffe légère, le vent provoque les bourgs. D'une folle cavalcade, il fouette les remparts, accable les chimères et menace de nous déposséder de nous-mêmes. Dans le ciel, les nuages noirs courent vers l'horizon. Leur passage nous enserre comme un colosse de sa poigne virile. La tempête qui se prépare répandra le souvenir des cendres dispersées sur ces terres, sur les lèvres des bergers que le temps a déchirées comme l'érosion qui creuse les falaises. Les mots seront éparpillés, emportés par le courant vers la mer. Alors, autant dans Paradje, il s'agissait de poèmes, avec des vers souvent qui sont des vers très courts. Par exemple, ils sont perdus dans le sommeil des cavernes. Ces deux vers, ils sont perdus, donc trois mots, ça fait un vers. Autant là, avec cette polyphonie landaise, eh bien, Carlos Diaz a recours à la prose poétique. Il ne s'agit pas de vers, mais d'une prose poétique, c'est-à-dire de longs paragraphes, qui constituent chacun un poème en prose, donc. 2. Éternellement, la lande demeure pareille à elle-même, insouciante, bien qu'obstinée. Elle sait dire le monde incliné, celui des suaires tissés par la mélancolie, les mouvements invisibles et la calamité sèche du labeur. Elle sait dire la lutte inlassable contre la nature revêche, là où les victoires de l'homme ne sont qu'éphémères. La lande est un chapelet de siècles que le présent prolonge dans le spectacle des broussailles se profilant jusqu'à l'horizon. Le regard se perd sur sa campagne rase. Comme la mer à bout de course, la lande s'enfuit, s'efface et revient embrasser un pays dépecé par la lumière. Pour honorer le vivant, ses rayons sautent sur la fougère et le houx, comme la mouette farouche de plage en plage. Voilà. Alors, on voit là d'abord tout ce qu'est la poésie aujourd'hui. De quoi est faite cette poésie aujourd'hui? Elle est faite essentiellement donc du langage, c'est-à-dire du travail sur la langue. Ça peut paraître, ces proses-là peuvent paraître, comment dirais-je, un peu abstraites, un peu déconnectées d'une certaine réalité, et pourtant, par le travail de la langue, on va avoir cette création, cette recréation d'un lieu qui est le lieu effectivement de la lande, là, de ces forêts, de ces grandes plages, de tout ce qui fait cette campagne landaise. Mais en même temps, ça reste, par le travail des mots, ça reste aussi le lieu du poème. Et dans le lieu du poème, il y a la vision du monde du poète, comment le poète voit le monde, et comment de quelques détails, par exemple, là, par exemple, il va prendre, pour honorer le vivant, ses rayons, il parle du soleil, hein, ses rayons sautent sur la fougère et le houx, comme la mouette farouche de plage en plage. Donc, il va y avoir ce jeu de la lumière, des rayons du soleil, qui vont faire comme la mouette, vont passer d'un endroit à un autre, vont sauter comme ça, et c'est la lumière qui saute, mais en même temps, c'est le mouvement de la mouette. Et ça, c'est une vision du poète qui est aussi une vision du monde. C'est-à-dire que, eh bien, la lumière, bien entendu, c'est une valeur très symbolique. La lumière, c'est ce qui éclaire le monde. Le monde ne pourrait pas être ce qu'il est. Nous serions dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le, comment dirais-je, dans l'enfer, s'il n'y avait pas la lumière. Et cette lumière, elle va faire comme la mouette. Elle va avoir cette légèreté de sauter d'une fougère sur le houx, comme ça. Et ça va donner cette légèreté au monde que veut le poète. 3. Chaque bourg que j'ai traversé est un phare flottant. Une tour de garde jetée à bas par la vieillesse. La peau et la terre sont unies. L'œil et la ligne d'horizon sont inséparables de la lenteur, de l'assaise et du dépouillement. C'est ici que vers nous, la fragilité se retourne. Dans les fondations d'une tragique offrande, du présage qui nous dévore. Je ne prononcerai pas le nom de ce village. Je ne montrerai pas le fils tenant auprès du marais, ni ne ferai écho à la clameur qui va de contrée en contrée. Je ne dirai plus le nom de cette patrie dessiné sur le mirage de la transhumance. L'amertume par les eaux retenues, le sacrifice des hirondelles et les mains rejetées à la mer. Un peuple se déchire entre mes doigts. Il rougit, et l'odeur de son passé est celle de ma propre peau. Je le tiens tel une branche ses bourgeons. Il me poursuit comme un ruisseau obstiné, s'allongeant jusqu'à la chute. Et comme le porteur d'enfants, j'assume sa présence sur mes épaules. J'irai de plus en plus loin. Pareil à la folle avoine fouettée par le vent, jusqu'à en perdre le masque, la main caressante, retenant les noms fatigués sur la pierre, je descendrai dans l'effacement de la steppe sans rien dire pour que remontent les adieux détruits, les troupeaux au galop, les oiseaux piailleurs et les bénédictions dites d'une voix effondrée en rivière, écume, pain et attelage. Je descendrai avec la tempête, dressé comme un éclair, et devinerai l'ombre d'un outil sur le pli noir du sillon abandonné. Dans le seul amour de l'espoir, j'irai en moi-même, fragment après fragment, morsure après morsure, en voulant apprendre contre les habitudes, la faim, la joie préservée, l'acuité suprême. D'entaille en entaille, les mains nouées par un chapelet de graines, j'habiterai cette nouvelle grâce et la graverai à jamais, d'un coup sec, comme la faux dans les ronces, pour que ruisselle et dégouline sur l'herbe le serment de la conscience et que se montre à nouveau l'image décelée du songe. Alors, très, très beau poème en prose, assez long, hein, où il y a beaucoup de choses. Il dit des choses sur lui, d'ailleurs, dans ce texte. Un peuple se déchire entre mes doigts. N'oublions pas qu'il vient du Chili, que ce peuple du Chili s'est déchiré en 1973, hein, par le coup d'État de Pinochet, la mort de Allende. Il vient de là, lui. Il est l'héritier de ce passé. Mais ce peuple aussi, eh bien, c'est le peuple des Landes, ce peuple gascon, qui se déchire aussi entre ses doigts, parce que le peuple gascon aussi, ben, il a connu des déchirures. D'abord, il a perdu sa langue, hein, puisque maintenant, le gascon, il y a très peu de gens qui parlent véritablement du gascon. Il dit, il rougit et l'odeur de son passé est celle de ma propre peau. Donc il fait sienne, en définitive, un petit peu ce qui s'est passé dans ces Landes, bien que, honnêtement, il n'y ait pas de véritable comparaison de mesure entre ce qui s'est passé dans cette atrocité au Chili et ce peuple qui perd un peu de sa culture, qui abandonne un peu de ce qu'il est, le peuple landais. Mais il y a là une identification qui est quand même une identification assez bouleversante, parce que ça veut dire que véritablement il a intégré au plus profond de lui-même, et c'est peut-être ça ce qui fait le poète, cette capacité à pouvoir ressentir, à pouvoir dire, à pouvoir incarner quelque chose qui est du niveau presque de l'ineffable, de l'innommable. Eh bien, le poème arrive à le dire. Bien entendu, ce sont des textes qu'il faut lire et relire, parce que ce sont des textes quand même où il y a une certaine complexité. Nous allons peut-être finir par ceci. Voilà. C'est le texte numéro 10. Comme abandonné de toutes parts, cherchant dans le lointain la beauté des grands espaces, un adieu s'échappait de mon âme. Une désolation s'emparait de moi, j'essayais de la noyer en cheminant sur l'épaisse feuillée, à chacun de mes pas, dérapant sur ce terrain vague. Je m'avançais vers le pays au repli rêche que rien ne cerne, vers l'humide lit de fougères, au-devant des siècles figés, déshabités et refroidis par la solitude. Et là, dans les champs sans rémission, voici une stèle pour la cendre et le nom d'un dieu d'épopée. Je m'assois au pied de la statue blasonnée, tout près de l'invisible présence, une image vient peupler ma pensée. Ces croix de station, au bord des chemins, rappellent le souvenir d'un mystère errant. Le tracé d'un coup de fusain sur la terre brûlée par l'histoire, la ligne d'horizon pénétrant dans les dédales obscurs damnés, et soudain, ma vue est trompée par une illusion. Je vois un cortège de bannières à l'étoffe ancienne qui arrive d'un pas rythmé, et les souvenirs d'une beauté nouvelle viennent se confondre dans les écheveaux du temps volé. Elles sont portées par des jeunes gens recueillis, ralliés par l'amour de l'homme et l'entente avec l'invisible. Te rogamus, odinos, répondait ancêtre et héritier, à voix basse, aux suppliques du chantre marchant dans la clarté du printemps qui bourgeonne en silence. Après avoir foulé les champs où devait être bénie la future récolte, la procession des rogations s'arrêtait ici, à ce reposoir décoré de guirlandes en papier et de fleurs printanières, un endroit peuplé de noms entrelacés, sanctifié de vœux écrits au charbon et prononcés dans des accents telluriques. Le vol des grues me ramenait au devant de la scène. Là où le mirage disparaît. Et j'ai dit à ce jeune homme dont l'image m'échappe aujourd'hui, « Comme toi, comme un fleuve aveugle, je disparais et me range là, où nous pourrions ne jamais revenir. » À toi qui te présentes à moi comme l'envers du vent, je dis, « Ne meurs pas dans la fragilité de la bouche, dans l'impossibilité du mot. » Quelque chose passe, toujours. Le visage qui est là aujourd'hui n'y sera plus demain. Me tournant vers un autre homme que je ne connaissais pas, je lui ai dit, « Le pont entre nous sera le privilège de garder la vie et de la faire valoir dans sa fragilité et son merveilleux. Nous resterons unis dans la maîtrise du présent pour affronter la lumière qui, si nous en supportons la brûlure, nous lavera les yeux des fantômes, des hier, des naguères, des autrefois. Nous resterons la date qui est inscrite à la fois sur la pierre du linteau et sur la longue marche de l'enfant à venir. » Ben, on retrouve exactement ce que l'on avait vu dans les textes précédents, c'est-à-dire ce rappel du passé, de tout ce que la civilisation passée a produite. Il parle donc d'un dieu d'épopée, et puis la stèle dont il parle, il dit ces croix de station, donc ce sont ces croix qui ornent ces plateaux là des Landes, hein, qui rappelle, dit-il, le souvenir d'un mystère errant. Donc ce mystère errant, c'est toute une civilisation, c'est toute une croyance, c'est aussi une ancienne langue, une langue qui disparaît. Mais il dit, attention, quand il voit un homme, il lui dit, le pont entre nous sera le privilège de garder la vie, de faire valoir dans sa fragilité son merveilleux. Alors, le pont entre nous, vous savez ce que disait Octavio Paz, il disait que le poème, c'est toujours un pont entre les hommes. Voilà. Et donc, le langage poétique, la parole poétique, au-delà de toutes ces images, de tout ce qu'elle peut véhiculer, ce qu'elle véhicule véritablement comme émotion, au-delà de tout ça, cette parole poétique, elle ne serait rien si elle n'était un pont entre les hommes, c'est-à-dire ce qui va permettre de passer de l'un à l'autre. C'est ça le pont. On va d'une rive à une autre, et donc on va d'une personne à une autre personne. Et ce pont, c'est la parole poétique. Voilà, c'est le poème. Et c'est ce que nous dit Carlos Díaz, donc ce poète franco-chilien, et qui nous rappelle ce que nous avons été et ce que nous devrions toujours être, c'est-à-dire des gens animés du parage. Carlos Díaz, polyphonie landaise précédée de parage, poème chez Gallimard. Et dans les quelques minutes qui restent, je voudrais également vous signaler un recueil. Alors, il s'agit là, je vais rester un peu dans le ton, des poètes du lieu, un recueil de Gilles Lade. Alors, Gilles Lade, il fait partie, c'est un poète, donc à un certain âge, hein, c'est un poète des années 50, il est né dans les années 50, Gilles Lade. Il a fait partie, il fait toujours partie du comité de la revue Encre Vive, créée par Michel Cozet, maintenant continuée par Éric Chassefière. Encre Vive, dont je ne peux que vous inciter à vous abonner. Le numéro d'Encre Vive vaut 6,60 € et l'abonnement vous coûtera 40 €, donc adressé à Éric Chassefière, 232 avenue du Maréchal Juin, 232 avenue du Maréchal Juin, 34-110 à Frontignan. Et puis, tout simplement, il y a un contact par mail, encre, avec un S, encre, S, donc un point, encre.vive, toujours avec un S, 34, encre vive, vive sur. Succédé de 34@gmail.com. Bon, vous trouverez toutes ces coordonnées sur notre site, lespoètes.site, sur lequel vous allez retrouver toutes ces émissions. Les poètes, tout attaché, sans accent, .site. Alors voici ce que dit Gilles Lade dans ce petit recueil, publié donc, et qui constitue le 42e. Vous vous rendez compte, une revue qui a 542 numéro, c'est extraordinaire. Elle est née en 1960, cette revue, Encre Vive, ici à Toulouse. Gilles Lade fait paraître Dans les lignes du feu, poème du révolu. Alors voilà ce qu'il dit. Alors ce sont des poèmes très brefs. Je vais en lire peut-être quelques extraits dans le temps qui me reste. Et il dit, Gilles Lade, j'ai écrit ces poèmes en 1995 sur une proposition plastique de Jean-Noël Laszlo. Ils m'ont été publiés ni en revue ni en recueil. Je les ai redécouverts récemment. Donc, vous voyez, ils avaient perdu ces poèmes et ils les retrouvent. Bon, voilà. Alors, leur lecture m'a confronté à moi-même par-delà les années. C'est assez difficile quand même de se retrouver de 1995, donc 30 ans après. Et ces retrouvailles, dit-il, ne sont pas anecdotiques. Ce moment révolu conserve sa vie, laissant en suspens le poids de l'interrogation sur le temps écoulé depuis lors. Alors on rappelle que Gilles Lade, il est né à Figeac, dans le Lot, très très belle ville, hein, Figeac, en 1949, et qu'il a publié une cinquantaine de recueils de plaquettes. Il a reçu le prix Antonin Artaud en 94. Il a publié une anthologie des poètes du Quercy, des troubadours à nos jours, aux éditions du Laquais, et il a édité aux éditions Encre Vive un premier recueil en 1983 avant d'entrer au comité de rédaction, et il est toujours membre d'ailleurs de ce comité de rédaction. Alors je vais vous lire juste quelques extraits, ce sont des poèmes très très brefs, donc qu'il a écrit il y a 30 ans, et qui effectivement c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe 30 ans avant. Enveloppe fendue à la hache vers l'oxygène d'avoir vécu. Voilà, trois vers. C'est le 1. Texte 1. Texte 2. Avant la cendre, les portraits prolongent un frisson de cheveux et de voix. Alors c'est un des aspects peut-être les plus prisés aujourd'hui de la poésie contemporaine. Ce sont les poèmes brefs. Très bref. Je pense que c'est un dérivé des haïkus. On veut tellement élaguer, élaguer, élaguer que il ne reste quasiment que le squelette du poème. Mais effectivement, il faut se concentrer dans l'écoute du texte et ensuite dans la lecture, hein, parce qu'il vaut mieux d'ailleurs avoir le texte sous les yeux. Lucarne. Lucarne parmi moi dispersée et qui danse l'écart du fidèle et de l'arraché. Quatre vers. Quatre. Très tôt, la chute, le chemin, barré, larme de rage, contre le voile prolongé de la fenêtre, contre l'espace donné, repris. 5. Trois vers. Du plus cruel montait le rêve, la neige ou le pont rouge. Alors, à mon avis, là, dans ce texte de trois vers, hein, la neige, constituant un vers, à elle seule, je dirais, il y a quand même l'influence, à mon avis, vraiment de cette poésie japonaise, qui est une espèce de flash, de vision prégnante, qui va donc imprégner cette vision, c'est les couleurs de cette vont imprégner la parole poétique, vont imprégner et vont se traduire par les mots. 6. Seul dans la traversée, seul avec l'ombre des maisons et le trésor qui se forme entre les airs cimentés et les fluves de l'eau. Voilà. Comment il rend compte de la solitude. 5 vers pour rendre compte de cette solitude. 7. Souvent, tu dis douceur, patience, et ne te reconnais pas. Ah, c'est énigmatique ça. Mais qu'est-ce qu'on peut penser en écoutant cela? Souvent, tu dis doucement, douceur, patience, et ne te reconnais pas. Est-ce que le fait de dire douceur, patience suffit à avoir cette douceur et cette patience? Certainement pas. C'est ce que je pense, à mon avis, que veut dire ce poème. 8. Le verger donnait des fruits sans raison après l'empire des chênes. Des chênes, l'arbre. Hein. Le verger donnait des fruits sans raison après l'empire des chênes. 9. Nul ne me prouve que l'enfant s'est grandi depuis l'if grillagé. Donc toujours l'arbre, hein, là c'est un if. Un if qui voit grillagé. 10. Je perdais force en des visages pendant que la ville resserrait les damiers brumeux. 11. Fuyard de joie, je frôlais l'empire du fer et du feu. Voilà, c'est pour vous donner une idée de ce recueil. C'est un recueil qui est très intéressant à voir. J'en lis un au hasard. Ton orgueil, sur fond de cime, devait périr à la manière des étés soudains. Voilà. Il y a toujours ce côté énigmatique du poème. Et c'est ça aussi la parole poétique, cette espèce de saisissement, d'étonnement. C'est cet étonnement qui fait que le langage, la confrontation des mots, quand ce ne sont pas des mots comme on a l'habitude de les employer, et le poème doit nous déshabituer justement à ce langage automatique, systématique. Ce langage qui est souvent notre langage ordinaire, mais qui est souvent dénué de vie. Et c'est la parole poétique qui va donner de nouveau, qui va laver ce langage. Elle va le enlever toutes ces impuretés et elle va nous ressaisir par justement cette surprise, le jasmin à l'ombre de l'if, ces étoiles intangibles. Voilà. Si vous entendiez ça dans la rue, des gens qui parleraient comme ça, vous seriez effectivement, vous auriez l'oreille et vous direz qu'est-ce que c'est que ça. Voilà. Et bien ça, c'est la parole poétique. Et c'est ce qui nous amène à ce miracle, et qui est le miracle du poème et de la création. Voilà. Il me reste peut-être à vous présenter aussi un autre recueil. Mais j'en reparlerai plus longuement. Il s'agit de Jacqueline Saint-Jean. Jacqueline Saint-Jean qui fait partie, d'ailleurs, c'est amusant, mais c'est une coïncidence, oui, c'est ça, Jacqueline Saint-Jean fait bien partie du comité de rédaction de la revue Encre Vive, et elle publie un très beau livre aux éditions Sémaphore, petit livre qui vous coûtera 11 euros, qui est un long poème en prose et qui s'appelle « À vers sans vers ». Alors, « vers sans vers », le met avec un V majuscule, « vers en vers », V-E-R-S-E-N-V-E-R-S, « vers sans vers ». Alors, « vers sans vers », c'est un poème sur les lieux. En exergue, elle dit... Elle met des citations, une citation de Paul Auster dans Moon Palace. Le dedans et le dehors ne peuvent pas être séparés sans causer de grands dommages à la vérité. Et puis, une citation de Julien Gracq dans le Rivage des Sirtes, que je vous invite à lire, hein, c'est vraiment un chef-d'œuvre de la littérature du XXe siècle. Elle a extrait ceci, le murmure bas et obstiné que faisait dans mon souvenir cette ville tapie. Quelque chose comme une alerte lointaine se glisse jusqu'à nous dans ce vide clair du matin, plus rempli de présages que de songes. Alors, vers en vers, c'est un lieu. Il y a tout un long poème en prose, hein, plus d'une trentaine de pages. Une trentaine de pages qui constitue donc ce poème en prose. Et alors, c'est un lieu. Et c'est un lieu, mais c'est un lieu qui n'existe pas réellement, puisque c'est un lieu de songe, et donc vous ne trouverez pas sur les cartes. Alors il est apparu chez elle, dans son écriture, dans Chemin de bord, puis dans Le Récif. Ce sont des nouvelles qui avaient été publiées par Rivaginaire. Rivaginaire, c'était une revue qu'elle, Jacqueline Saint-Jean, dirigeait. Et elle dit, ça m'habite toujours. Et donc, nourrie de ses séjours atlantiques, hein, elle est, Jacqueline Saint-Jean, elle nous vient de Bretagne, et elle dit, c'est un lieu intérieur où vient s'inscrire le présent de l'écriture. Voilà. Alors, vers en vers, c'est ce lieu interne, aurait dit René Guicadou, hein, c'est-à-dire à l'intérieur de soi. Et c'est à l'intérieur de soi que naît l'écriture, bien sûr. Le courant central de l'écriture cherche à créer son propre lieu. Le poème se fait isme, labyrinthe du bac, vers en vers, île non cartographiée, travail souterrain qui engendre ces territoires d'encre où viennent battre pulsations et désirs, questions et hantises, quête d'un lieu où faire corps. Ah, ça c'est important. Quête d'un lieu où faire corps. C'est-à-dire qu'il va falloir ce lieu intérieur, eh bien, il va faire corps avec soi-même. Il va se confondre et se substituer peut-être au véritable corps. Voilà. Écoutons Jacqueline Saint-Jean, quelques extraits. Ah, non, on n'a pas le temps. Alors, juste deux mots. Vers en vers afflué, reflué, fluctué dans les cycles du temps secret. Donc, à lire, je vous en reparlerai. Jacqueline Saint-Jean, à vers en vers, collection Arcane, aux éditions Sémaphore. Ainsi s'achèvent les poètes. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine. À 10h.